Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Nikèze Kibelbel Oka. Il est journaliste et il est éditeur du journal Les Polices. Il vient de publier l'ouvrage intitulé Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Bonjour Nikèze Kibelbel Oka.
Bonjour Guy Maté, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Oka.
Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu, elle est membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente de l'association dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti ya Mama Mukongomani. Bonjour Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à mon papa Abdi Nikel, je suis belle.
Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Bonjour Patrick Mbeko.
Bonjour.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Nikèze Kibelbel Oka. Il est journaliste et l'éditeur du journal Les Coulisses. Il vient de publier l'ouvrage intitulé Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Madame Nelly Mbangu Lumbulumbu, elle est membre de la société civile du Nord Kivu. Elle est présidente de l'association dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti ya Mama Mukongomani. Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique, il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Au menu de cette émission, la position de la RDC par rapport à l'implication de l'Ouganda dans les dossiers du M23, comprendre la guerre du M23 dans toutes ses facettes, et enfin, implication des femmes dans le processus de paix en RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la déclaration faite par l'actuel Premier ministre et son prédécesseur de leurs patrimoines familiaux. En effet, la Première ministre de la RDC, Judith Suminwa, et son prédécesseur, Samalou Kondé, ont déposé à tour de rôle le mardi 9 juillet à la Cour constitutionnelle, à Kinshasa, la déclaration de leurs patrimoines familiaux. C'est ce qui est exigé aux membres du gouvernement entrant et sortant. C'est un geste important. C'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef de gouvernement. Ça permet aussi de démontrer la volonté de transparence, a déclaré la première ministre Judith Suminwa dans ses propos relayés par l'Agence congolaise de presse. Les ministres vont les faire comme le veut la Constitution. C'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours après notre prise de fonction. La majorité des ministres ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial. Ils auront à les déposer d'ici jeudi au plus tard, a-t-elle dit. Nikèze Kibelbel Oka, on commence avec vous. La tradition a été respectée, les déclarations ont été déposées, celles de la Première ministre et de son prédécesseur, nous l'avons dit. Et la première ministre parle de la volonté de transparence, mais peut-on parler de transparence là où les déclarations sont faites sous pli fermé?
Ah, effectivement, vous le soulignez, même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais on ne peut pas juger les intentions, on doit juger par les actes. Et sous pli fermé, nous ne savons pas ce que les membres du gouvernement déclarent. Et à la fin de leur mandat, nous ne savons pas ce qu'ils ont acquis. Donc, il y a quand même un doute sur cette bonne foi, cette transparence. Bon, espérons que cette bonne foi va aboutir effectivement à une transparence. Mais vous l'avez souligné, quand c'est sous pli fermé, c'est difficile de savoir quel est le contenu et comment on entre, comment on s'en sort. Donc c'est un peu difficile, mais c'est peut-être une tradition sur papier, mais il faut juger aux actes.
Merci, il faut juger aux actes. Maître Nelly Mbangulumbulumbu, que pensez-vous de ces gestes que viennent de poser la première ministre Judith Suminwa et son prédécesseur Samalou Kondé?
Merci beaucoup Guy Maté. D'abord, il faut dire que bon, l'acte est quand même louable, le fait pour la première ministre de déposer cet inventaire des biens. Mais bon, comme vient de le dire mon frère Kinikez, il faut quand même que l'acte soit ouvert, et vous-même vous l'aviez dit, qu'on sache, qu'on publie au moins ces biens-là. Quels sont les biens que détiennent Madame Suminwa? Et moi, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est le fait que, à la sortie du gouvernement, donc à la fin du mandat, on n'a jamais vu aussi une sorte de publication, maintenant à la fin, pour dire voici les biens que le ministre ou la première ministre a acquis après son mandat. C'est aussi ça la redevabilité. Mais la redevabilité, nous devons le constater par le fait que le document doit être ouvert à tout le monde, publié, n'est-ce pas, pour qu'on sache qu'est-ce qui est dedans, quels sont les biens déclarés, mais à la fin aussi, qu'est-ce qu'elle a acquis pour que nous puissions vérifier. Bon, je vais quand même reconnaître que c'est une pratique qui s'est faite à Kinshasa, mais dans les provinces, on n'a pas vu. On ne voit pas la même pratique se faire dans la province. On a tendance à tout faire ici à Kinshasa. Tout se fait pratiquement ici à Kinshasa, mais les provinces ne suivent pas. Donc on a vu le gouverneur qui se sont suivis après, on n'a pas vu la déclaration des biens des gouverneurs. À Goma, partout, dans toutes les provinces, quels sont les biens qu'ils ont déclarés au départ et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont déclaré avoir reçu après leur mandat. Donc c'est vraiment cette pratique que je peux louer si elle est claire, du moins si les procédures sont claires et que les documents sont clairs et publiés. Cela peut être une très bonne procédure surtout pour la gestion du pays. Merci.
Merci. Patrick Mbeko, est-ce que cette méthode a effectivement la capacité de contribuer à la lutte contre notamment l'enrichissement illicite de certaines personnalités politiques?
Pas du tout, je ne le crois pas. Et comme l'a dit le prédécesseur, le problème est que les gens font des déclarations de patrimoine. Donc, d'abord, c'est une démarche qui est quand même réglée par les dispositions constitutionnelles et réglementaires. Il n'en demeure pas moins au regard de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, que ça ne change rien, en fait. Et ça ne permet pas de... On ne fait pas preuve de transparence, tout simplement, en déposant un dossier plus fermé. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que à la fin de leur mandat, toutes ces personnes, les ministres, en tout cas les autorités qui dirigent le pays, ne présentent pas ce qu'ils ont pu accumuler depuis tout ce temps. Quand on connaît l'histoire du Congo, l'histoire récente du Congo, bah, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais quand on connaît l'histoire de ce pays en matière de détournement des deniers publics, je ne crois pas qu'un tel exercice puisse modifier quoi que ce soit aux habitudes qui sont incrustés dans les esprits des uns et des autres. Et donc, personnellement, je suis de ceux qui pensent que oui, il faut, bien entendu, déclarer son patrimoine à l'entrée quand on commence une fonction, et le déclarer aussi au moment où on sort de cette fonction, mais le faire de manière publique, afin que l'opinion publique prenne au moins acte de toutes ces déclarations-là et se faire leur idée. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que l'objectif en mettant en place cette disposition constitutionnelle et réglementaire, était d'assurer une forme de transparence aux yeux de l'opinion publique, pas aux yeux de ceux qui le dirigent, ou faire semblant de faire preuve de transparence alors qu'on ne l'est pas. Et donc, il est essentiel, moi je crois, de déclarer au moment où on arrive aux affaires, mais aussi au moment où on quitte les affaires, de sorte à permettre au public de se faire sa propre religion, et le cas échéant, poursuivre des gens si l'on se rend compte qu'il y a eu détournement des deniers publics. En ce moment même, je pense qu'il sera difficile d'arriver à ça, dans la mesure où nous savons tous que, bien entendu, on détourne et personne n'est inquiété. Donc si les autorités politiques les dirigeants ne sont pas inquiétés par la justice, alors qu'il est de notoriété publique qu'on lui retourne à tour de bras dans ce pays, je ne vois pas ce que changera, en fait, cette approche ou cette manœuvre de déclaration du patrimoine.
Merci. On prend une petite pause avec Beau Continent des Tiken Djapakoli et on revient juste après.
Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. La jeunesse est là, les richesses abondent, l'avenir nous attend. Le soleil appelle le tourisme, va des postes-là, la bonne humeur vagabonde, combattant, exploitant, il n'y a pas d'opportunisme. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre? Pourquoi nous dire à nous que notre Afrique est pauvre? Quand tu regardes ce beau continent, qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir.
L'Afrique a besoin de personne, juste envie de vivre de grandeur et d'estimer les mémos qui résonnent. Comment réussir? Cartable sur une épaule. Marcher pour s'enrichir, le pouvoir de s'inspirer, déterminer, visage, pouvoir réagir. Hey, Abidjan, y allons, y allons, traitez-nous le chien le bon. Abidjan, y allons, y allons, oh.
Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir, tu sais qu'il a tout pour réussir.
Yeah, yeah, oh yeah, car l'Afrique est l'avenir du monde et son passé. Ce qu'elle tient dans ses bras ne peut se remplacer. Traité comme une paria mais tellement convoité. Hey, car Mama Africa est riche de ses enfants. We not give up. Sa jeunesse va de l'avant. C'est d'écouter les plus offrants. Never give up. Des anciens maîtres ont fait leur temps. Non, l'Afrique n'est pas pauvre si elle souffre en silence. C'est qu'elle a porté tant de fardeaux. Pourquoi dire qu'elle est pauvre si ce n'est pas suffisant? Comme ceux qui veulent voler ses joyaux.
Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir.
C'était Beau Continent avec Tiken Djapakoli, ce reggaeman ivoirien qui n'est plus à présenter. On revient à l'actualité de cette semaine. Le membre du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo ont publié lundi 8 juillet leur nouveau rapport. Les documents révèlent le soutien actif de l'Ouganda aux rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Depuis la résurgence de la crise du M23, selon le rapport, l'Ouganda n'a pas interdit les troupes du M23 et de la RDF ni leur passage sur son territoire, y compris lorsque le M23 a pris Bunagana le 12 juin 2022 avec l'appui de la RDF. Ces experts évoquent ainsi des preuves attestant du passage régulier des troupes, des véhicules et des matériels militaires du M23 et de la RDF sur les territoires ougandais. Des allégations catégoriquement rejetées par les porte-parole de l'armée ougandaise, le brigadier général Félix Koulayigye, qui affirme que ce rapport n'a absolument aucun fondement scientifique. Il manque de documentation et il est biaisé. Nous n'avons aucune raison de soutenir ces rebelles alors que nous faisons partie des mécanismes régionaux pour la résolution des conflits dans l'est de la RDC. Que des gens fassent ce genre d'allégations est une façon de saboter les efforts que nous entreprenons plutôt que de les soutenir, estime-t-il. Patrick Mbeko, vous êtes écrivain, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique, vous êtes aussi spécialiste des Grands Lacs, vous avez opté pour les sujets sur la position, n'est-ce pas, de la RDC par rapport à l'implication de l'Ouganda dans les dossiers du M23. On vous écoute.
j'ai opté pour ce sujet parce que, de mon point de vue, il éclaire de manière éclatante le manque de sérieux du gouvernement congolais dans son approche visant à régler la question de l'instabilité dans le Kivu et même dans l'Ituri, et surtout pour régler, je dirais en tout cas, la menace...
Pourquoi vous parlez du manque de sérieux?
Ben, je manque du manque de sérieux parce qu'on ne peut pas prétendre combattre une rébellion, entre guillemets, ou combattre le Rwanda et ses supplétifs du M23, tout en faisant des alliances avec un pays qui, lui aussi, joue un rôle néfaste dans le soutien aux mêmes personnes que l'on prétend combattre. C'est une question de cohérence et de lisibilité, et tout ça fait que, sur le plan diplomatique, on n'est même pas pris au sérieux. J'ai eu à le relever dans un certain nombre d'émissions depuis plusieurs mois, parce que je posais la question de savoir comment peut-on être pris au sérieux dans cette histoire quand, d'un côté, on prétend vouloir combattre ou combattre le M23, et d'autre part, on entretient des rapports pour le moins étroits au niveau de la sécurité et des questions de défense avec un pays comme l'Ouganda qui soutient à bas bruit le même M23. C'est tout le problème. Et moi, c'était l'une des remarques que m'avait faite un diplomate de la région lors d'une discussion privée que j'avais avec lui. Il m'avait dit, mais si vous estimez, M. Mbeko, que nous sommes hypocrites, que dire de votre gouvernement qui entretient des rapports avec l'Ouganda, et l'Ouganda qui, de notoriété publique, en tout cas au niveau des chansonneries occidentales et même africaines, est connu pour être un soutien sur M23. Donc, c'est ce paradoxe qui explique aussi ce que j'appelle le manque de sérieux du côté congolais. Et la publication du dernier rapport des Nations Unies vient appuyer cela. Et quelle a été la position de la RDC par rapport à tout ça? On a vu notre ministre des Affaires étrangères qui a dit, on regrette ça, on a des préoccupations, on va faire un suivi au niveau à travers les canaux diplomatiques, mais la vérité du terrain est que l'Ouganda soutient le M23 qui lui propage la mort et la désolation avec la bénédiction du Rwanda. Donc on ne peut pas avoir un discours qui semble être en contradiction avec ce que nous faisons sur le terrain.
Et Patrick Mbeko, que répondez-vous à ceux qui pensent que le silence de la RDC ne signifie nullement qu'elle n'est pas au courant du comportement de l'Ouganda? Et ce silence s'expliquerait selon cette opinion par le fait que la RDC ne voudrait pas ouvrir deux fronts à la fois.
Je suis d'accord avec cette analyse qui veut que la RDC a peur d'ouvrir deux fronts. Il faut comprendre le contexte régional. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, le Rwanda est quand même relativement isolé. L'Ouganda s'en méfie. Ils ont des conflits depuis 1999. Ils ont des moments de réconciliation, plus de tensions. Avec le Burundi, c'est la même chose, et avec certains autres pays de la région. Alors, le RDC est le pays qui s'est rapproché du Rwanda au moment où le Rwanda était isolé. Ça a surpris bien des gens. Mais par la suite, on a vu que le Rwanda, qui considère une partie de l'Est congolais comme sa zone d'influence, pensait le sourcil quand le Congo a fait appel à l'Ouganda. Et donc, le conflit, d'une certaine manière, le conflit entre l'Ouganda et le Rwanda s'est transposé sur le territoire congolais. Le Congo a pris position au regard de l'hostilité qu'affichait de plus en plus Kagame à l'égard de ce Tshisekedi. Et donc, tout ça a fait que, au regard du double jeu joué par l'Ouganda, le Congo n'a pas voulu ouvrir de front. Je crois, je suis de ceux qui partagent cette hypothèse-là, mais il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, avec le rapport de l'ONU qui est très très explicite sur le rôle de l'Ouganda, le Congo est dans une mauvaise posture. Et quand on adopte ce genre d'approche de posture, il ne faut pas oublier que nous sommes regardés et observés par d'autres pays de la région, tant sur le plan, pas seulement sur le plan régional, mais aussi sur le plan continental et international. Et donc cette illisibilité au niveau diplomatique fait que la parole de la RDC n'est pas prise au sérieux, et lorsque nous accusons le Rwanda de soutenir le M23, les gens se posent la question de savoir pourquoi nous fermons la bouche quand il est question de l'Ouganda qui lui joue le même rôle, mais à bas bruit.
Merci Nikes Kibelbel, vous êtes journaliste et vous êtes éditeur du journal Les Coulisses. Vous venez de publier l'ouvrage intitulé « Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024 ». Comment la RDC pourrait-elle gérer cette question maintenant que c'est publié dans un rapport des experts des Nations Unies? Comment ces pays peuvent gérer, n'est-ce pas, cette question quand on entend les porte-parole de l'armée ougandaise rejeter ces rapports et soutenir que l'Ouganda fait plutôt partie des mécanismes régionaux pour la résolution des conflits dans l'Est de la RDC?
Merci beaucoup Guy Maté, ne soyons pas naïfs. Nous devons faire la réelle politique. Pour comprendre les enjeux de la région des Grands Lacs, il faut remonter dans le temps. Et pour remonter dans le temps, Il faut mettre d'abord sur l'orbite les États-Unis et la Grande-Bretagne, notamment les pays anglo-saxons. Ce sont eux qui ont installé le pouvoir en Ouganda. Et ce pouvoir a aidé à installer le pouvoir au Rwanda. Si nous ne voulons pas, nous sommes contre le Rwanda ou contre l'Ouganda, nous devions par logique être aussi contre les Américains et les autres. Rappelez-vous que la chef de la MONUSCO en RD Congo avait déclaré, d'ailleurs même le secrétaire général, que le M23 avait l'équipement plus sophistiqué que celui de la MONUSCO. Ces équipements viennent des pays comme les États-Unis ou via les États-Unis, ainsi de suite.
Oui, mais maintenant que ces rapports ont été rendus publics, tout le monde dit que ce que ces rapports ont révélé était un secret des polichinelles, tout le monde les savait. Alors, comment la RDC pourrait-elle se comporter vis-à-vis de son partenaire ougandais aujourd'hui?
Mais moi, je suis étonné que les gens s'étonnent que se disent être informés aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, l'Ouganda et le Rwanda sont ensemble contre la RDC. Mais il y a un principe, je le répète toujours, il y a un principe dans l'art de la guerre qui dit qu'il ne faut pas avoir deux voisins comme ennemis. Aujourd'hui, l'Ouganda occupe le Grand Nord, c'est-à-dire Beni jusqu'à Nitouri, dans les opérations de mutualisation contre les MTM, les terroristes MTM. Si nous déclarons la guerre contre le Rwanda, nous ne sommes pas encore arrivés à y mettre fin. Nous déclarons la guerre contre l'Ouganda, dont deux pays officiellement en guerre contre nous. Nous perdons pratiquement tout l'Est parce qu'il faut voir les rapports de force. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, moi, je suis convaincu qu'il faut résoudre ces problèmes diplomatiquement. Mais le problème est un problème très sérieux parce que ça participe à la balkanisation du pays. Et la balkanisation de la RDC ne vient pas de l'Ouganda. C'est un plan concocté depuis New York, disons depuis Washington. Donc, accuser l'Ouganda, qui est depuis les années 90 sur notre sol, qui appuie depuis les années 90 le Rwanda contre notre pays, bon, le rapport sort aujourd'hui, mais nous qui vivons dans l'Est, nous savons que c'est chaque jour. Et vous l'avez souligné, pour prendre Bunagana, qui n'est pas la frontière avec le Rwanda est passé par l'Ouganda dans cette opération d'appui. Les troupes rwandaises sont passées par l'Ouganda. Nous l'avons dit maintes fois, mais il ne fallait pas attendre 2 ans pour être surpris. Non.
Nikes Kibetbel, justement, quelle est la carte que joue l'Ouganda, amenant, n'est-ce pas, des opérations conjointes avec les FRDC contre les ZDF, pendant qu'au même moment, le même Ouganda soutient le M23 contre les mêmes FRDC. C'est quoi la carte que joue l'Ouganda, à votre avis?
Mais c'est la carte de la balkanisation, mais il faut dire un mot. Tous ces pays que vous citez, nous les citons toujours, ils sont, et si l'Ouganda mène des opérations de mutualisation contre les ADF-MTM, et sur notre sol, c'est parce qu'il est financé et équipé par la France via Total Energy. C'est de la même façon que Total Energy où la France finance les opérations de la RDF au Mozambique pour les blocs gaziers. Donc il y a des grandes puissances qui équipent en armement lourd et sophistiqué ces pays qui nous agressent et qui mettent les FRDC en difficulté parce que moins équipés. Donc la carte que joue l'Ouganda, c'est la carte de la balkanisation, il n'y a pas autre chose. Balkanisation, pillage, ainsi de suite.
Merci, Maître Kennedy Mbangulumbulumbu. Vous êtes membre de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes présidente de l'association Dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Amama Mukongomani. Après ces rapports, comment la RDC doit-elle considérer l'Ouganda comme partenaire ou comme pays ennemi?
Merci beaucoup, Dimate. D'abord, il faut reconnaître que ce rapport vient renforcer toutes les thèses évoquées par la société civile qui dénonçait depuis le début de cette guerre l'implication de l'Ouganda aux côtés du Rwanda pour en fait occuper les terres de la RDC. Tout ça, ça a été dit. La société civile a mené des actions, des plaidoyers au niveau provincial, national et même tout récemment, nous avons vu une équipe de la société civile qui a été ici à Kinshasa pour parler de cette situation. Donc, il y a ces rapports-là, c'est un rapport qui est vrai et qui confirme, en fait, la présence de l'Ouganda. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est aujourd'hui que les gens commencent à penser à cette implication. Donc, au niveau du pays, au niveau des institutions, Moi, je me dis que si seulement on peut écouter ce que les populations qui vivent sur les côtes ou alors dans les zones à conflit, qui vivent des vérités au gouvernement, cela peut changer beaucoup de choses.
Madame Nelly,
oui,
maintenant, après que ces rapports aient été rendus publics, comment la RDC doit-elle considérer l'Ouganda comme pays ennemi ou comme partenaire?
Je pense que mon frère Nickel Kibelbel a essayé quand même d'épingler un peu la situation. Elle n'est pas du tout facile. Considérer deux pays comme ennemis, ce n'est pas aussi facile pour le Congo qui traverse déjà une situation très compliquée, avec des milliers de déplacés partout. Vous vous imaginez que s'il faut dire aujourd'hui que l'Ouganda est aussi devient ennemi et qu'on tire sur l'Ouganda, moi je me dis, c'est encore la population de Beni qui va se déplacer. Et elle va aller où? On sait que du côté de Bunia ou de l'Ituri, il y a cette situation de Kadeko, je ne sais pas, Zahir qui se battent au quotidien avec des ADF finales qui sont là. Donc cela vraiment va encore occasionner beaucoup de déplacements, une crise qui sera vraiment généralisée. Et cela risque en fait d'impacter même sur la situation globale du pays. Donc moi je me dis que c'est mieux, n'est-ce pas, de pouvoir peut-être commencer par des actions diplomatiques. Évaluer comment on peut discuter d'abord avec l'Ouganda, il est encore temps. Comme ça, on essaie de voir ce que le gouvernement peut faire pour résoudre cette question. Mais ce qui est évident est que l'Ouganda a toujours fait partie de nos ennemis et aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face pour dire que nous pouvons compter sur l'Ouganda. C'est une question qui se pose sur la table et ça mérite des réflexions très profondes pour qu'on se dise comment on se comporte face à un ennemi qui fait semblant de nous aider. Pourtant, on le sait très bien qu'à côté, donc à Beni, si l'Ouganda, l'armée ougandaise se bat aux côtés de FARDC, c'est en fait aussi pour protéger ses frontières contre ses propres ennemis. Peut-être aussi qu'il forme lui-même, qu'il forme pour en fait arriver à appliquer les plans de la balkanisation. Donc nous devons vraiment réagir avec beaucoup de tact, réagir avec beaucoup d'intelligence pour que la situation ne puisse pas embraser tous les pays. Merci, Dimaté.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. On va écouter Seconde Chance, cette chanson de Ferregola, contenue dans son nouvel album Galaxy. On revient juste après.
Une seconde chance, il n'est jamais trop tard. Pour celui qui peut se rattraper, Eric Sebande. Ah ouais.
Dienkela, Yves Kongolo, arme silencieuse. Sena Lubaki.
Motomo ya mitya sina la kemo alini ya midi ya mikate. Jama koganga o seku.
Excellence Peter Kazani.
Nasali pasoba, ensalangando, nakimi ebale. Na yeko batama, na lisiba ya mai, na lopango ya peche.
Fabrice Mbangu, grâce mafuta ye. Junior Osebande, Luna Kanida, Riton Osebande. Bob Mboba, la famille chef.
Eric Osebande, na wela. Kokene mobembo Namboka na yebite o Tala nenge na telenganiye La bimi mokaya
Chiverchi
Eriko sepone la prefere na sunga Na kolingate Na penfre Osi ya bolingo nange Kakapo Mana bokolo ba pardon
Maître grâce moua wa
Possible
Papi Chama Hervé Moulopo Otie Sarma Ye nangai shabani rekora
Nakende kio se bande na misongeli Kuna na ke ingambo Mote mi peli na moto Nakanisa ki na se chape Zoka na se fombe davantage Na zongeli o Eric na po na redouble Tona repeche na zongeli a terror Pe sanga bolingo oyo ya panamike bolingo ya kayede defe bolingo ya gande kule bolingo ya panamike bolingo ya touche
nani fumu mokonzi ya alos
eri bolingo epesaka chase
brésilien litanda
montafere bako efase mpe bako korige
ewi lisungu e krise libanga production Alexis, l'homme invisible, la tudinette. Et Timou Sengi, Asie asiatique. Ina Mubaro. Karine Ouattara.
Et si on souhaite. Sikater, posali dans les parages, songelangao, soki mapenga na salaki, nandimi songelanga to repare, poli mate ba ere nange domine, kayo na gome sana maboko na yo, kokanga mote materi.
Déjà, j'en vis.
Liberté, oyo se na kase, oyo se na boloko.
Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la déclaration faite par l'actuel Premier ministre et son prédécesseur de leurs patrimoines familiaux. Nous avons également analysé la position de la RDC par rapport à l'implication de l'Ouganda dans les dossiers du M23. Participe à cette émission, Nikes Kibelbel Oka, il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il vient de publier l'ouvrage intitulé « Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024 ». Maître Nelly Mbangulumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu et les présidente de l'association Dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Amama Mukongomani. Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique et il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Au Nord Kivu, les combats se sont poursuivis au troisième jour ce vendredi entre les rebelles du M23 et un groupe armé local dans le groupement Bachali Mokoto. C'est dans les territoires de Masisi. Selon plusieurs sources, ces combats se sont déroulés notamment sur l'axe Nyange-Bibwe ainsi qu'autour de Bweru près de Mweso. C'est après que la position tenue par les groupes armés locaux a été la cible d'une attaque des rebelles du M23. Quelques heures de combats après, les rebelles auraient pris les contrôles du village. Nikes Kibelbel, vous avez souhaité nous parler de ce sujet en les formulant ainsi, comprendre la guerre du M23 dans toutes ses facettes. On vous écoute.
Merci beaucoup. Comme l'indique le titre de notre ouvrage, il n'y a jamais eu de rébellion congolaise, mais des invasions. Des invasions des armées étrangères sous le masque des Congolais. Donc ce sont des rébellions créées ou initiées par des pays voisins. Tout à l'heure, nous parlions de l'Ouganda. Et en 2016, l'Ouganda a fermé les camps de Bianga, dont les camps où logeaient les ex-combattants du M23. Il les a tous chassés sous la barre du ACR. Ils sont retournés au Congo. On les a dotés des armes pour attaquer. Alors, ces rébellions-là, qui sont effectivement créées, initiées par les pays voisins, ont un seul objectif, c'est fragiliser la RDC pour amener à la balkanisation. Et le plan est le même. Ils ont attaqué en 2012 Tchanzu, de la même façon qu'ils ont attaqué Bounagane en 2022 et Kanyabayonga en 2024. Donc ils utilisent les mêmes méthodes. Ils positionnent d'abord les militaires rwandais et les militaires ougandais au front, bien équipés, qui mettent en difficulté les FRDC, et les FRDC reculent, eux avancent. Donc nous sommes pratiquement dans des replis stratégiques côté FRDC et dans des acquisitions, si vous acceptez les termes, des localités, des conquêtes des localités côté de nos deux voisins qui soutiennent le M23. Voilà un peu ce que nous avions à dire dans un premier temps.
Voilà, toutes les guerres qui ont commencé par les Rwandais depuis le Kivu, depuis pratiquement 96, les experts disent que ça vise la balkanisation. Aujourd'hui, plus de 30 ans, cette balkanisation n'est jamais effective. Comment vous expliquez le fait que la même approche est utilisée par les mêmes agresseurs alors qu'ils n'arrivent pas à obtenir ces résultats-là? Pourquoi ils doivent maintenir la même approche?
Et d'abord, c'est des guerres d'usure. Des guerres d'usure, ils utilisent les mêmes approches. Pourquoi? Parce que ces approches ont deux grands inconvénients. D'abord, on tue des populations, et il y a beaucoup de Congolais qui sont tués. Mais au-delà des tueries, il y a le déplacement des populations, des zones qui restent vides, et les Rwandais et l'Ouganda doivent compléter par des populations qu'ils amènent chez nous. Selon eux, ils pensent qu'au finish, avec l'usure, ils pourront dominer. Mais il y a aussi, il faut compter la résilience du peuple congolais. C'est-à-dire qu'on a essayé beaucoup de stratégies, mais ils n'arrivent pas. Parce que je peux ouvrir une parenthèse. On a essayé chez nous, ça n'a pas marché, on est retourné au Soudan. Mais il y a la résilience de la population fait que à chaque fois qu'ils essayent, ils échouent. C'est pourquoi d'ailleurs, ces rébellions ressemblent à l'ouragan qui fait courber des roseaux lorsqu'il pleut, lorsque la pluie passe. Et lorsque la pluie se termine, les réseaux qui n'ont pas été déracinés se remettent debout et continuent à résister. Ces réseaux, c'est la population congolaise, la résilience de la population congolaise, malgré les morts, malgré les tueries, qui continuent à résister parce que ne jamais trahir les Congos, il faut défendre la mère patrie.
Merci. Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu, au-delà de cette balkanisation qui est souvent évoquée et qui serait même l'objectif primordial, n'est-ce pas, de toutes ces guerres, ça pourrait être quoi l'objectif ultime de cette entreprise belliciste, Madame Nelly Mbangu Lumbulumbu?
Oh, je pense que c'est l'unique raison aussi. Il faut chercher à savoir donc la balkanisation qui va entraîner en fait la gestion d'une partie qui est considérée comme riche, une partie des ressources minières de la RDC. On le sait, donc il y a plusieurs ressources qui sont poursuivies par le Rwanda et l'Ouganda. Donc on le sait très bien, on sait que cette guerre a daté d'il y a plus de 30 ans et les gens se battent au quotidien, n'est-ce pas, pour arriver à mettre fin à la situation, malheureusement avec beaucoup de difficultés. Donc il faut quand même reconnaître les efforts qui sont menés par les gouvernements. Bien que on sait que difficilement on parvient à récupérer des villages et des villes qui sont entre les mains aujourd'hui des mouvements rebelles, mouvement M23 et ses alliés, où on parle alors le Rwanda et ses alliés. Donc nous avons beaucoup de difficultés pour récupérer les villages, mais nous pensons que la détermination avec laquelle aujourd'hui tout le peuple congolais se bat, n'est-ce pas, pour revendiquer, n'est-ce pas, leurs terres qui sont aujourd'hui occupées, c'est une chose que nous devons vraiment louer, et nous devons louer aussi cette grande mobilisation qui est derrière cette guerre. Mais nous devons aussi comprendre que la mobilisation en elle-même ne suffit pas. Donc il faudrait qu'il y ait des actions, des opérations d'envergure pour arriver à récupérer toutes les terres de la RDC qui sont aujourd'hui conquises par les M23. Donc notre souci, c'est de voir notre pays, nous sommes très faciles, pour nous les femmes, qui sommes devenues les victimes principales de ces différentes guerres. Nous voulons voir la paix. Nous voulons voir la paix au rendez-vous. Nous voulons voir, n'est-ce pas, de vivre sur dans les villages qui sont sûrs et sécurisés. C'est ça le souhait, envoyer nos enfants à l'école. Mais ce que nous voyons et ce qui se passe dans notre pays, en tout cas, c'est vraiment une grande désolation. Et nous sommes en train vraiment de demander à toutes les autorités de mettre toutes les batteries en marche pour que la situation redevienne à la normale. Voilà, Adi Maté. Donc, la situation est vraiment compliquée, mais nous avons l'espoir d'avoir un pays qui sera aussi pacifié.
Merci. Patrick Mbeko, au vu de cette énième guerre du Rwanda contre la RDC, est-ce qu'on s'est comparé si on affirmait que la RDC n'a pas pu tirer les leçons des guerres précédentes qui nous étaient imposées ou qui nous sont imposées par le Rwanda?
Non, on ne se tromperait pas. Et la preuve en est, on le voit aujourd'hui avec la question du M23. Quand on analyse la posture des autorités congolaises, en tout cas ceux qui sont là au pouvoir aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils n'ont tiré aucune leçon. Mais pire encore, on a même l'impression qu'ils n'ont pas une maîtrise suffisante des enjeux auxquels le pays est confronté. Je rappelle ce que j'ai dit précédemment. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, le Rwanda est un pays quand même isolé sur le plan sous-régional. Même si de temps en temps, Ougandais et Rwandais se mettent ensemble quand il est question de la RDC. Et là, j'apporterai aussi une nuance dans la mesure où on sait que, par exemple, il faut rappeler que les officiers rwandais aujourd'hui sont des anciens officiers ougandais. La plupart d'entre eux étaient dans l'armée ougandaise avant de prendre le pouvoir au Rwanda. C'est eux qui ont aidé Museveni, donc ça se comprend. Donc Félix arrive au pouvoir, il y a des tensions entre l'Ouganda et le Rwanda, et il commet une erreur monumentale, c'est qu'il se rapproche du Rwanda en snobant un tout petit peu l'Ouganda, ce qui explique d'ailleurs la posture de l'Ougandais du Burundi lorsqu'il a été question en 2019 et en 2020 de la mise en place d'une force conjointe au niveau sous-régional pour mater les groupes armés à l'est du Congo. Les deux pays se sont retirés parce qu'ils estimaient que le Congo faisait le jeu du Rwanda. Et maintenant, on se rend compte que les deux se sont mis ensemble et jouent aujourd'hui leur carte contre la RDC en soutenant un groupe rebelle entre guillemets, parce qu'il s'agit du Rwanda. En fait, M23 pour moi, il n'est qu'un artifice, mais on a un groupe aujourd'hui qui est l'émanation d'un groupe qui existait avant, qu'on a appelé le CNDP, qui lui-même est une émanation d'un groupe qu'on a appelé le RCD Goma, qui lui-même découle de ce qu'on a appelé l'AFDEL, que Laurent Désiré Kabila avait appelé le conglomérat des aventuriers. Et donc, on est dans une sorte de changement dans la continuité. Et cette continuité, les autorités congolaises d'aujourd'hui n'ont pas su tirer les leçons du passé. Et quand vous écoutez même la rhétorique des autorités congolaises, vous avez l'impression que c'est le Congo qui agresse le Rwanda. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement rwandais, Madame Makolo, aux médias internationaux, à l'AFP, en disant que le Rwanda va se défendre. Et allez examiner, par exemple, la feuille de route qui a été signée entre le ministre Biruta, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda, M. Biruta, et l'ancien ministre des Affaires étrangères de la RDC, M. Christophe Lutundula, à Luanda. Quand vous lisez ce document, vous avez l'impression que c'est le Congo qui est un problème et c'est le Rwanda qui se défend. Mais pourquoi est-ce qu'on signe ce type de protocole d'accord? C'est parce que nous n'avons pas la maîtrise suffisante des enjeux. Notre rapport à l'histoire tragique de notre pays, de la RDC, est encore très problématique. Et ça permet de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Le narratif qui est le nôtre ne permet pas de contrer le narratif rwandais dans la mesure où notre narratif, sans peut-être le réaliser, s'insère dans le narratif du Rwanda. Lorsque nous acceptons implicitement que les FDLR, par exemple, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, constituent une menace pour la sécurité du Rwanda, nous faisons le jeu du Rwanda. Et c'est d'autant plus étonnant que les rapports des Nations Unies, le deuxième rapport des Nations Unies de 2002, du 15 octobre 2002, disait très exactement que le Rwanda a fait croire à la communauté internationale qu'il est intervenu au Congo pour des raisons sécuritaires. Les groupes d'experts ont des preuves du contraire. Donc c'est documenté par l'ONU. Comment se fait-il qu'à ce jour, plus de 20 ans plus tard, le Congo n'est toujours pas capable de tirer son épingle du jeu en renversant le rapport de force, au moins sur le plan diplomatique, en présentant un narratif qui est en accord avec les rapports des Nations Unies?
Donc, en gros, il est vrai que nous n'avons pas retenu les leçons du passé. Il est vrai que nous avons du mal à cerner les contours des enjeux relatifs à cette histoire de déstabilisation continue à travers une constellation de groupes armés à l'est de la RDC. Et cela relève de l'ignorance ou en tout cas du manque de sérieux ou alors, je dirais, du manque de rigueur des autorités actuelles du Congo.
Merci. Lui, on l'appelait le dieu de la guitare. Il s'agit de Nico Kassanda. On va donc prendre une petite pause en écoutant l'une de ses chansons, « Tu m'as déçu chouchou », et on revient juste après.
Tu m'as déçu chouchou, je suis resté ignoble. Vraiment, je suis touché par tout mon cœur. À la Binyaza, mon amour. Vraiment, je suis touché par tout mon cœur. À la Binyaza, mon amour.
C'était « Tu m'as déçu chouchou » du docteur Nico Kassanda avec sa guitare hawaïenne. Il est né le 7 juillet 1939 et donc il aurait totalisé le dimanche 7 juillet 2024 85 ans s'il était encore vivant. Mais il est mort le 22 septembre 1985. Paix à son âme. Et je rappelle que nous avons dans cette émission Nikes Kibelbel Oka, il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses et il vient de publier l'ouvrage intitulé Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Maître Nelly Mbangu Lumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu et les présidente de l'association dynamique des femmes juristes des FCJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti ya Mama Mukongomani. Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Il est aussi spécialiste des Grands Lacs. La chef de la MONUSCO a échangé le mardi 12 juillet à Kinshasa avec les membres de la mission des plaidoyers des femmes des pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs Siergel en sigle de l'ONU Femmes avec à sa tête Catherine Samba-Panza, présidente honoraire de la République centrafricaine. Cette délégation a pour mission en RDC de mener des plaidoyers auprès des décideurs pour une participation des femmes au processus politique ainsi que leur apport dans la lutte pour la paix et la sécurité conformément à la résolution 1325 de l'ONU. Elle prévoit de sensibiliser tous les acteurs impliqués dans cette question. Elle prévoit de rencontrer plusieurs personnalités de la RDC, notamment les chefs de l'État Félix et Antoine Tshisekedi. La paix ne peut être durable sans la femme. Il est temps de faire en sorte que cette question de la participation féminine soit systématiquement prise en compte dans l'agenda des décideurs congolais, a déclaré la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, au cours de la rencontre avec les membres de la mission des plaidoyers. Madame Nelly Mbangu Lumbulumbu, vous avez souhaité nous parler de l'implication des femmes dans les processus de paix en RDC. On vous écoute.
Merci beaucoup Guy Maté. J'ai choisi ce thème parce que, comme vous le savez, ça fait plus de 30 ans que la partie Est de la République démocratique du Congo traverse des moments, des situations très difficiles de conflits armés, mais aussi qui sont couplés à d'autres faits, notamment les catastrophes naturelles, l'éruption volcanique. Du côté du Sud Kivu, nous avons les inondations dans la cité de Minova. Et à Kalemi, nous avons parlé du conflit intercommunautaire entre les Twa et les Bantou. Et du côté des Maïndombe, nous avons les conflits entre Teke et Aka. Donc, à Nitouri, nous avons les conflits communautaires entre Ema et Lendu. Donc, tous ces conflits, en fait, qui affectent principalement les femmes et de manière très disproportionnée. On a remarqué que les femmes dans les camps des déplacés, il y a plus de femmes que des hommes. On a aussi constaté que ce sont les femmes qui payent le lourd tribut de ces différentes guerres. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de prendre des décisions qui concernent les femmes ou alors les décisions qui parviennent à résoudre tous ces conflits, on a constaté que les femmes sont souvent ignorées sur les tables de négociation ou alors elles ne peuvent rien apporter comme avis, considération. Et cela peut en fait amener, n'est-ce pas, ces femmes-là à subir des actes ou alors des décisions qui sont prises par les autorités sans que ces décisions ne puissent en tout cas refléter les réalités ou alors les problèmes qui les concernent. Dans le cadre de nos différentes activités, nous, en tant que réseau, nous avons organisé des forums au niveau provincial dans 5 provinces de la République démocratique du Congo. Et ce sont les 5 provinces qui sont affectées aujourd'hui, notamment la province du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri, de Tanganyika et de Maïndombe. Donc le souci était d'amener les femmes à pouvoir donner ou alors identifier le besoin en termes d'aspects qui les concernent et amener ces femmes à décider, n'est-ce pas, de quels sont les vrais besoins spécifiques qui peuvent être appliqués ou alors être considérés par les autorités lorsqu'ils vont, par exemple, sur les tables de négociation, comment on parvient à résoudre les questions qui concernent les femmes, comment on parvient à résoudre les questions de protection et de sécurité. Alors, dans le cadre de ces projets qui a été financé par ONU Femmes, nous avons eu autour de 250 femmes au total en République démocratique du Congo qui ont en fait donné ces besoins-là. Et il a été question maintenant d'organiser une table ronde au niveau national. Je pense que l'activité qui a été menée par Madame Bintou Keïta vient en fait renforcer ce qui s'est fait déjà au niveau national. Parce qu'au niveau régional, c'est vrai,
De ce qui restait d'ailleurs, les femmes se demandaient, mais comment est-ce que les autres femmes...
Allô, madame Nelly Lumurumbu. Je crois qu'elle est partie, on va essayer de la rappeler plutôt. Nikes Kibelbel Oka, quels atouts pourrait avoir la femme par rapport à l'homme dans la démarche visant à ramener la paix en RDC?
Oui, merci Guimaté. La femme a tous les atouts possibles, tous les atouts, parce que c'est elle la matrice même du monde, je dirais la matrice du Congo. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le plan de la balkanisation, la femme est une victime. On la viole, on la soumet dans une sorte d'inhumanisme, de vilipender, pour qu'elle ne puisse pas régenter la vie. Mais la femme aussi, de la même manière qu'elle tient le foyer, qu'elle tient la maison, elle peut mieux faire que les hommes. Il faudra tester. Mais la question, la vraie question, toutes ces femmes violées en RDC Congo, pourquoi la communauté internationale garde le silence? Pourquoi on ne fait que des dénonciations sans pour autant arrêter ceux qui sont à la base des situations tragiques que vivent la femme en RDC Congo? C'est ça la vraie question.
Merci. Patrick Meko, du Canada, d'où vous intervenez. Quelle lecture vous faites de l'implication de la femme dans les processus de pacification de la RDC?
Je pense qu'on ne peut se passer du rôle de la femme dans ce processus, dans la mesure où, d'abord, les femmes ne sont pas seulement victimes, elles sont aussi témoins. Elles comprennent certains enjeux. Et comme ça a été dit précédemment, c'est aussi la femme qui est ciblée pour déstructurer toute la société congolaise dans son ensemble. Quand on connaît la place de la femme dans la structuration même de sociétés africaines en général et congolaises en particulier, on ne peut pas se passer de la femme pour régler des problématiques sociales dans lesquelles les femmes elles-mêmes sont impliquées. Les hommes ont un regard parfois masculin sur les problématiques, mais les femmes peuvent avoir un regard beaucoup plus global que les hommes, non seulement en tant que victimes, en tant que témoins, mais en tant aussi que porteuses de solutions. Et moi, je crois qu'on ne peut plus s'en passer. Et ça là, on voit bien que dans nos sociétés africaines, et surtout au Congo, où tout a été déstructuré, c'est aujourd'hui les femmes qui tiennent les familles. Et donc, on ne peut pas se passer de ces femmes-là dans la résolution des problèmes auxquels le Congo est confronté, plus particulièrement dans la partie est du pays.
Merci. La réalisation me signale que Mme Nelly Mbangu Lumbulumbu est là. Mme Nelly Mbangu, vous êtes là?
Allô?
Vous êtes là, hein?
Oui, je suis là.
Ok, donc on va finir cette émission avec vous. Vous étiez en train de nous expliquer, n'est-ce pas, la démarche que vous menez lorsque la ligne a posé problème. Est-ce que dans les échanges, vous êtes convenu sur les méthodes ou les facteurs ou les mécanismes qu'il faut mettre en place pour que la femme puisse effectivement participer au processus de pacification de la RDC?
En fait, nous sommes arrivés à nous convenir autour de notre table ronde sur la mise en place d'un cadre de collaboration et de concertation qui doit en fait partir du niveau le plus haut, donc à Kinshasa, vers le niveau des provinces, où on doit y avoir plusieurs acteurs qui doivent être intégrés dans ce cadre, une manière en fait de pouvoir faire des alertes précoces, dénoncer certains cas de violence qui se font plutôt des conflits qui s'identifient dans nos différentes communautés. Nous avons également décidé de rencontrer plusieurs autorités pour des actions de plaidoyer au niveau de la capitale, qui est le siège des institutions. Nous avons discuté avec ces autorités, nous avons donné un agenda commun de femmes, et un agenda d'un cahier de charges commun de femmes, qui en fait traduit les besoins des femmes et qui peuvent en fait constituer comme une note de plaidoyer, que cela peut être utilisé par les autorités lorsqu'il s'agit par exemple de décider sur des questions de conflit au niveau de notre pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Nelly Mbangu Lumbulumbu, Monsieur Nikes Kibelbel Oka et Monsieur Patrick Meko. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa et à Defsi Vita qui étaient à la technique, avec la participation de Christian Lumombe et d'Hervé Voka, sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Mamba de Simaro Lutumba dans l'orchestre Ok Jazz et on se retrouve le samedi prochain.
Mama. ne komo valide na le papa de la yo de kona zala kana ya kuma na accident mwana mama
mwana ina bongo serie oh mama mwana ina bongo papa oli kona ba yesu die oli metingi zote kotina makila mama mama
baby ngoiba oli kona lolemo mama Baiko mbaya na kacha chikapa Osu nani gana bala bala Oligora kisanga nani na maplase Na mote mae
Nongona gaina bongo serie O mamba nongona gaina bongo baba Oligora baesu sie Oligwe tiki zote koti na makila Mama mama
Kateki kapote kabine miranga Yadenwe Yangana mama mama miye pai Nanya popote na kayo Bangonyo soka kabine mina bambandae Mwana mama
Nongona gaina bongo serie Oh mama nongona gaina bongo papa Koli kona baesu sie Koli wetiki zote koti na makila Mama mama
Bongo mwane tike Kaina wye Kaikonde kwa mobalite Nanya pomande na yeo Deko na zala kana ya kumara Sito mwana mama
Nongona gaina bongo Oh, Mamba, Nongona gaina bongo, papa Koli kona baesu sie Koli wetiki zote koti na makila Mama, mama
Bye.